Richard Wagner par Arvid Barin. Il y a des hommes dont il semble qu'on ne puisse parler de sang-froid. Leurs admirateurs et leurs détracteurs s'emportent également hors de toute mesure, leur dressent des autels ou les traînent aux gémonies, et n'admettent pas qu'il y ait un milieu entre ces deux extrémités. Richard Wagner est du nombre de ces hommes. Demi-dieu pour ses fidèles, qui trouvent un sens fatidique à la date de sa naissance, et écrivent des morceaux lyriques sur la forme de son front, il n'est pour les philistins qu'un grotesque qui pisait à un grotesque envieux et venimeux une outre gonflée de vent d'où s'échappe un ennui subtil et pénétrant. Amis et ennemis ont entre eux un point commun, l'horreur démodérée, capable de trouver à l'œuvre de Wagner un mélange de défauts et de qualités. J'entreprends donc, sans illusion, l'esquisse rapide et nécessairement incomplète qu'on va lire. Je suis résigné à subir le sort que l'Apocalypse réserve aux tièdes, a dit le prophète, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te rejetterai de ma bouche. Chapitre 1er. Richard Wagner est né en 1813 à Leipzig. Son père, greffier de son métier, faisait partie d'une troupe d'amateurs qui donnait des représentations goûtées du public. Son frère aîné devint chanteur de profession. Ses quatre sœurs entrèrent au théâtre. Le second mari de sa mère, Ludwig Gaia, était comédien et peintre. Richard était destiné par ses amis à la peinture. On lui fit commencer le dessin, pour lequel il ne montra pas de disposition. Le clavecin n'alla pas mieux. Son maître déclara qu'il n'arriverait jamais à rien en musique. Le père de Weber avait montré la même clairvoyance pour son fils. Un jour qu'il assistait à la leçon, il s'était écrié avec impatience « Karl, tu deviendras tout, excepté musicien. » Wagner a donné raison sur un point à la prédiction, il n'a jamais pu apprendre le piano. Il s'accuse lui-même de doigtés abominables et avoue de bonne grâce que son aversion contre les traits est née d'une rancune. Ce maître de clavecin de Leipzig, don de prophétie à part, ne paraît pas avoir été un aigle. À 14 ans, son élève ne connaissait pas Beethoven, même de nom. Il en entendit parler pour la première fois à l'occasion de sa mort. Le grec et le latin allèrent bien au début. L'écolier s'était épris de l'Antiquité dès les premières clartés qu'il en avait eues, et à l'âge de 11 ans, il rimaillait des tragédies imitées des Grecs. Il apprit l'anglais pour lire Shakespeare, et commença un grand drame où Hamlet s'amalgamait avec le roi Lear. Certains déboires qu'il eut à l'école arrêtèrent ce bel élan, et il devint décidément mauvais élève. Ses études l'ennuyaient, il ne s'intéressait plus qu'à sa pièce, dont le plan était grandiose. 42 personnages mouraient au cours de l'action, si bien qu'au dénouement il ne restait plus personne. L'auteur se tirait de la difficulté en faisant reparaître à l'état de spectre les gens dont il avait besoin. Un jour, quelqu'un surprit son manuscrit. Ce fut un moment cruel. Le jeune poète se vit méconnu par sa propre famille, et en place du tribut de louanges qui lui était dû, il reçut une verte semonce pour avoir perdu son temps au lieu de faire ses devoirs. L'injustice des siens le détermina à leur cacher la résolution qu'il avait prise récemment, après avoir entendu une symphonie de Beethoven, de se faire musicien. Il fallut pourtant bien, pour avoir des leçons, en venir à un aveu. Les parents accueillirent très mal la communication. Ils s'en tenaient au verdict du maître de clavecin, confirmé jusqu'ici par les faits, et ils combattirent de toutes leurs forces ce qui leur paraissait caprice et idées en l'air. Ils cédèrent cependant, et s'en repentirent, en apprenant du maître d'harmonie que son élève ne faisait rien. De son côté, Richard Wagner trouvait peu d'attrait à l'étude des intervalles et des accords. Il abandonna l'harmonie et se mit à écrire d'inspiration de grandes ouvertures pour orchestre. Une de ces ouvertures fut exécutée au théâtre de Leipzig. Wagner avait beaucoup compté sur l'effet d'un grand coup de timbale qui se répétait fortissimo toutes les 3 mesures d'un bout à l'autre du morceau. L'effet fut aussi prodigieux qu'il se l'était promis, mais d'un genre auquel il ne s'attendait pas. Le public commença par s'étonner de l'opiniâtreté du timbalier. De la surprise, il passa au mécontentement et ne se contraignit pas de marquer sa mauvaise humeur. Pour dernière disgrâce, la gaieté succéda au dépit et la salle fut prise d'un fou rire qui mortifia sensiblement le jeune compositeur. Le triste sort de la grande ouverture rappelle le fameux concert de Rousseau, lorsqu'il lui prit fantaisie, sachant à peine ses notes, de se donner à Lausanne pour un compositeur et d'écrire absolument au hasard une symphonie qu'il eut la constance de diriger lui-même et qui, après avoir mis les assistants hors d'eux-mêmes par son infernal charivari, se termina au milieu d'une explosion de rire. Richard Wagner possédait heureusement, dès sa première jeunesse, la ténacité qui l'a conduit au but à travers tous les obstacles. Après la déroute de Leipzig, et sans travailler davantage pour cela, il s'entêta dans sa résolution d'être musicien, et bien lui en prit, car au milieu de ses frasques d'étudiant, il eut son chemin de Damas et fut illuminé de l'idée qu'il ne ferait pas mal d'apprendre son métier. Quelques mois plus tard, le contrepoint n'avait plus de secret pour lui et il commençait à composer abondamment. Les idées qu'il a développées et soutenues avec tant d'éclat et de fracas n'avaient pas encore germé dans son cerveau. Il n'était pas dans sa nature d'inventer spontanément, de créer d'instinct et inconsciemment. L'étude de son œuvre et de sa carrière montre bien plutôt qu'il était né chercheur. C'était un grand travailleur, méditatif, puissamment organisé pour la réflexion, enclin, au rebours du commun des artistes, à asservir l'imagination à l'intelligence. À l'époque où nous sommes parvenus, Richard Wagner, comme presque tous les débutants, tâtonnait et imitait. Ses modèles étaient tantôt Beethoven, Mozart et Weber, tantôt les maîtres français et italiens. Son but était d'obtenir la clarté et la force. Son autobiographie contient sur ses premiers essais un aveu qui est curieux à plus d'un titre. Wagner, jugeant son premier opéra, Les Fées, s'exprime ainsi. Il y avait beaucoup de choses réussies dans les ensembles. Il manquait aux morceaux de chant détachés la mélodie libre, existant par soi-même, selbstständig, avec laquelle, et uniquement avec laquelle, le chanteur peut exercer une action, tandis qu'une déclamation détaillée et minutieuse lui enlève indépendance et moyens d'action. Ceci est le défaut de la plupart des Allemands qui écrivent des opéras. Il n'est pas un mot de ces lignes, écrites en 1852, qui ne tombe à pic sur les opéras de la maturité de Richard Wagner. Elle marque la révolution qui s'est accomplie dans les idées du compositeur, prêchant aujourd'hui d'exemples et de paroles ce qu'il blâmait jadis. Le partisan de la mélodie selbstständig s'est converti. Il est devenu le déclamateur par excellence, le plus détailliste, le plus minutieux, le plus résolu à ne pas laisser ombre d'indépendance aux exécutants, du premier sujet au dernier des figurants. Chapitre 2. En 1834, à 21 ans, Richard Wagner entra dans la vie pratique et prit la direction du théâtre de Magdebourg. Il changea plusieurs fois de séjour pendant les 15 années qui suivirent, travaillant à conquérir sa place au soleil, familier avec la pauvreté, se faisant partout des amis et des ennemis pleins d'une égale ardeur et fondant par degrés, en dépit des critiques, sa réputation de chef d'orchestre et de compositeur. Il avait renoncé à se rattacher à aucune des écoles de musique existantes et avec la ferme volonté d'être lui-même et la ferme confiance de faire quelque chose de bien, il avait écrit « Paroles et musique »,« Rienzi », »,« Le vaisseau fantôme », »,« Tannhäuser », »,« Lohengrin ». Ces pièces, la dernière exceptée, avaient été exécutées sur plusieurs scènes allemandes avec des fortunes diverses. Tannhäuser tomba à plat aux premières représentations. Mais en somme, le succès montait, montait, avec les reculs apparents et la régularité finale de la marée. Pressé de passer des faits aux idées, je ne retiendrai de ces années d'apprentissage et de vagabondage que quelques traits du séjour que Wagner fit en France de 1839 à 1842. Il s'était embarqué à Riga sur un navire à voile. La traversée dura 3 semaines et fut très orageuse. Les impressions que ce voyage laissa à Wagner ont été admirablement traduites par lui dans le vaisseau fantôme. Drame imparfait sans doute, mais drame poétique, vrai drame maritime où l'océan vit et bruit. Ce ne sont point les rayonnements et les transparences lumineuses de la Méditerranée, c'est le tumulte et le gémissement des mélancoliques mers du Nord, chères à qui naquit sur leur bord. En débarquant à Boulogne, Wagner eut une déception. L'examen de notre système monétaire l'avait amené à la conclusion bizarre que puisqu'il y a 20 sols et 100 centimes dans un franc, tandis qu'il n'y a que 12 pence dans un shilling, la vie devait être d'un bon marché extraordinaire en France. Il s'était déjà préoccupé de l'emploi des économies qu'il réaliserait sur les 1500 livres qui formaient sa fortune et celle de sa femme, et il avait décidé qu'il achèterait un château aux Pyrénées. Qu'on vienne dire après cela que Bagneau ne possédait pas sa dame blanche. La première note d'hôtel qu'on lui présenta effaroucha ses illusions qui achevèrent de s'envoler à Paris. Il faudrait ignorer les luttes qu'ont à subir nos jeunes compositeurs français pour s'étonner qu'un étranger inconnu, dont la musique était une énigme pour des oreilles accoutumées à Rossini et à Auber, n'ait pu percer ici en quelques mois, malgré l'appui de Meyerbeer. Celui-ci, qui s'y connaissait, donnait à Wagner 10 ans pour asseoir son succès. Berlioz, dont il fit la connaissance durant ce séjour, n'a pas vu sa propre victoire, et lorsqu'on entend les acclamations qu'il soulève aujourd'hui, on est ému de tristesse en pensant à la joie immense qu'une petite part de ses bravos aurait causée au pauvre grand artiste, inhabitué aux caresses des applaudissements. Wagner partagea le sort commun. Il fut abreuvé de déboires et étreint par une misère qui le réduisit à accepter des tâches de manœuvre jusqu'à faire des arrangements pour le cornet à piston. Sa consolation était d'aller au concert du conservatoire. Cette merveilleuse exécution, qui de l'aveu de tous les Allemands on ne retrouve nulle part ailleurs, lui causait un véritable ravissement et achevait de lui révéler les maîtres de son pays. Celui qui veut comprendre la 9e symphonie de Beethoven, dit-il, doit l'entendre exécutée par l'orchestre du conservatoire de Paris. En 1842, il renonça au combat et repartit, le cœur plein d'une injuste amertume contre la nation qui ne l'avait pas deviné, plus que qu'il n'était venu, mais emportant la partition du vaisseau fantôme, écrite en 6 semaines pendant un séjour à la campagne. Ses premiers grands succès suivirent de près son retour en Allemagne. Toujours bataillant, très contesté et en définitive vainqueur des résistances, il mena une existence relativement tranquille jusqu'au mouvement insurrectionnel de Dresde en 1849, dans lequel il se jeta assez avant pour être proscrit et obligé de fuir hors d'Allemagne. Il était alors aussi révolutionnaire en politique qu'en musique, mais ses idées politiques ont changé considérablement dans la suite. Les principaux ouvrages où il a formulé ses théories sur l'art ont été écrits pendant cet exil, qui dura plus de 10 ans. Le reste de sa vie est suffisamment connu. On n'a point oublié l'épisode scandaleux du Tannhäuser, sifflé à l'Opéra de Paris, de parti pris et sans avoir été écouté par un public élégant, ennemi né des nouveautés et des révolutionnaires. On oubliera encore moins la vengeance cruelle et basse que l'artiste outragé a tirée de la ville coupable en écrivant contre elle, au moment de ses malheurs, une misérable farce qui est non moins une faute de goût qu'une mauvaise action. Les journaux ne se sont point lassés de raconter les péripéties de l'orageuse période bavaroise. Les histoires fantastiques qui courent à Munich au sujet du luxe fabuleux du favori du roi Louis, le courroux des Bavarois de ce que l'argent de l'État, leur argent par conséquent, était employé à jouer les opéras de Wagner, enfin comment celui-ci avait dû s'éloigner provisoirement pour satisfaire aux vœux nationaux. La réputation du compositeur n'a pas cessé de croître et de s'étendre au milieu des tempêtes qu'il a le privilège de soulever dans tous les lieux où il va. Il règne sur les nombreuses scènes allemandes. Il possède à Bayreuth un théâtre spécial, construit sur ses plans, où il donne des représentations extraordinaires qui sont considérées comme des fêtes solennelles et auxquelles les souverains viennent assister. Il est accepté en Angleterre, en Russie, en Belgique, en Suède, en Espagne, en Italie même, et il le serait sans doute en France sans le libelle dont j'ai parlé, car son Rienzi avait été exécuté avec succès au théâtre lyrique peu de temps avant la guerre. Ses adversaires eux-mêmes sont obligés de reconnaître en lui le premier compositeur vivant. C'est sa doctrine qu'il répudie, l'accusant d'être fausse et d'avoir pour l'art des conséquences pernicieuses. On ne peut juger équitablement ce qu'un homme a fait qu'en sachant ce qu'il a voulu faire. Une exposition du système wagnérien a donc pour préambule indispensable l'explication du rôle ambitieux que son inventeur s'est assigné dans l'histoire de l'art. Chapitre 3e. Nous avons vu Wagner enfant se passionner pour l'Antiquité et concentrer sur la Grèce une attention qui était alors difficile à fixer. Il demeura fidèle, en avançant en âge, à son culte pour le peuple éducateur par excellence, et en se familiarisant avec ses poètes et ses artistes, il était inévitable qu'il fût frappé du spectacle, unique en l'histoire du monde, d'un peuple vivant l'art, si j'ose m'exprimer ainsi, dans sa vie publique et privée tout entière. Cette humanité supérieure et rayonnante, disait-il, a péri avec Athènes, et le monde ne l'a plus revue. Nous avons eu et nous avons des arts, qui se sont débattus avec des fortunes diverses contre la brutalité des Romains, contre l'ascétisme du Moyen Âge, contre le despotisme de la convention littéraire, et qui sont aujourd'hui prêts de succomber sous l'oppression de l'industrie. Nous n'avons plus l'art vivant, et cela suffit pour nous constituer inférieurs aux anciens, quelque avance que nous ayons prise sur eux en bien des points. Peut-on ressusciter ce qui est mort, ou plutôt, peut-on créer un art nouveau qui soit au peuple moderne ce que la tragédie d'Eschyle et de Sophocle était aux Athéniens, qui deviennent l'élément essentiel de leur culture intellectuelle, l'âme de leur âme, la vie de leur vie? Wagner croit la chose possible. Le terrain est prêt. C'est l'Allemagne aux tendances idéalistes, aux fières aspirations, l'Allemagne puissante et calme, marchant vers les sommets de la civilisation dans l'orgueil et la confiance de sa jeune force. C'est chez elle que l'art renaîtra sous la forme d'un théâtre répondant à la raison la plus intime de sa civilisation, de la même façon dont le théâtre des anciens Grecs répondait à l'esprit grec. Le cerveau vigoureux qui enfantera cette œuvre et l'imposera au scepticisme moderne, c'est Richard Wagner, et le levier qui lui fournira la force nécessaire, c'est la révolution. L'art était conservateur chez les Grecs, parce qu'il servait d'expression légitime et adéquate à la conscience publique. L'art véritable est révolutionnaire chez nous, parce qu'il n'existe qu'en opposition avec la société légitime. L'effort de la politique allemande doit tendre à favoriser par tous les moyens le développement de l'art national, car c'est le plus sûr moyen de combattre l'influence française. Wagner insiste sur ce dernier argument. Il sait que l'idée de faire pièce à la France est la plus agréable qu'il puisse présenter aux Allemands, et il ne se lasse pas d'appuyer sur la corde sensible. Il fait honte à ses compatriotes de subir le joug de notre mode, de se ravaler, eux les purs et les nobles, à imiter des gens sans idéal, des matérialistes qui ne s'élèvent pas en art au-dessus d'une certaine virtuosité et dont le matérialisme n'est même pas de bon aloi, car lorsque nos écrivains essaient de peindre la société qui les entoure, leur tableau est faux, parce que la société française, empêtrée dans un réseau de conventions, est à 100 lieues de la nature. Au XVIIe siècle, par exemple, la cour de Versailles, où les idées, les passions, les mœurs étaient artificielles et factices, était en possession exclusive de fournir aux poètes des modèles de beaux sentiments et de beaux langages. De là le caractère arbitraire et purement conventionnel de notre littérature du siècle de Louis XIV. Wagner, soit dit en passant, adresse encore à nos classiques un autre reproche, moins rebattu que celui de manquer de naturel et de vérité. Il accuse les héros de Racine de ne pas être assez nobles, assez raffinés, de n'avoir pas des façons de parler assez relevées. Ce sentiment inattendu s'explique cependant. Racine choisit toujours le mot le plus simple. Il sait être parfaitement noble en n'ayant ni pompe ni enflure. Il n'est pas surprenant qu'un étranger qui n'ait pas entré profondément dans le génie de la langue française soit dérouté par cette simplicité exquise et s'en tire en déclarant Phèdre trivial. Les appels réitérés de Wagner en faveur du théâtre nouveau, qui constituera l'œuvre nationale par excellence, ne se sont pas adressés seulement au peuple allemand. Il n'a pas dédaigné, tout révolutionnaire qu'il est ou qu'il a été, d'appeler les princes à son aide. En effet, l'État est le seul pouvoir qui puisse délivrer l'art des chaînes de l'industrie. En termes plus clairs, c'est à lui que revient le soin de mettre le théâtre en état de vaquer à sa mission véritable et supérieure, l'éducation du peuple, sans avoir à s'occuper de rapporter de l'argent, et le rôle naturel du souverain est de diriger l'État dans la bonne voie. Un mot du vainqueur de Sadova, s'écrit Wagner, et une nouvelle force surgira dans l'histoire qui fera pâlir pour toujours la civilisation française. il s'y prend autrement avec le roi Louis, qui lui paraît désigné d'une façon spéciale et providentielle pour le seconder dans la création de l'art allemand. La Prusse, lui dit-il, parle toujours de sa mission allemande. La Bavière pourrait aussi remplir une mission allemande, qui serait même beaucoup plus élevée que celle de la Prusse. On devine assez quelle est la mission de la Bavière. Les souverains ne gardèrent pas rancune au compositeur de ces écarts de jeunesse en politique, et l'art de l'avenir naquit. Chapitre 4e. Les Grecs, qui avaient fourni à Wagner l'idée de sa création, lui en fournirent aussi le modèle, comme ayant seul su assigner à l'art sa place véritable dans la vie des nations. Ce théâtre antique, auquel il veut donner la main à travers les 20 siècles et plus qui nous en séparent, lui plaît par l'union intime d'art qui y sont aujourd'hui distincts. La poésie et la musique lui semblent n'y faire qu'un, et il voit une décadence dans le procédé qui a tendu à les rendre indépendantes. Séparées, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes, quoi qu'on en croie et qu'on en dise, et la division de la tragédie grecque aux savantes mélopées en pièces parlées et en opéra a été une opération contre nature également funeste aux deux genres nouveaux. Tandis que la pièce parlée, n'étant plus portée sur l'aile de la musique, quittait les régions supérieures de l'idéal pour ramper sur terre, l'opéra formait un chaos d'éléments disparates qu'aucune idée ne reliait entre eux, si ce n'est celle de plaire au spectateur en parlant à ses sens. L'opéra caresse les yeux et les oreilles, rien de plus. C'est une mosaïque musicale sans cohésion, encadrée dans des tableaux voluptueux et éclatants. Mais la scission qui s'est produite entre la musique et la poésie n'était pas définitive, et les conséquences déplorables qu'elle a eues n'étaient point sans remède. Les deux muses sœurs, qui n'avaient cessé de se regretter et de se chercher, se sont enfin rapprochées et se sont confondues pour ne plus se quitter dans un embrassement mystique. Ainsi, l'évolution accomplie par l'humanité depuis 2000 ans aura eu pour but final et pour résultat de revenir au point d'où elle s'était élancée. Les deux arts se sont fusionnés à l'arrivée comme ils l'étaient au départ, et de leur alliance féconde est né le type le plus élevé qu'il se donnait à l'homme d'atteindre, le drame musical, œuvre logique, où la trame poétique et la trame musicale ont retrouvé leur unité première. Les deux muses qui concourent à la naissance du drame musical ne sont cependant point placées par Wagner sur un pied d'égalité. Il donne à l'une des sœurs une prééminence décidée sur l'autre, et ce n'est pas à celle qu'on pourrait croire. Posant en principe que le drame proprement dit est la base et le but, la musique un simple moyen d'expression, il veut que la trame poétique détermine absolument et avec la dernière rigueur la trame musicale, au poète de commander, au musicien d'obéir en se faisant humble et soumis. Le premier invente, le second traduit et interprète, en tâchant de ne pas faire de contresens, à peu près comme un acteur, en récitant un rôle, cherche à sortir de lui-même et à s'incarner dans le personnage qu'il est chargé de représenter. De laisser, dit-il, le compositeur s'érige en maître, c'est comme si une personne voulant bâtir une maison s'adressait au tapissier au lieu de demander l'architecte. L'idée d'ajuster la musique aux paroles n'a rien de nouveau pour des Français, puisqu'elle a poussé sur notre sol. On s'en était préoccupé dans notre pays longtemps avant Gluck, et Wagner est disciple de ce Clérambeau dont Rousseau parle dans les Confessions, qui scandait les vers si justes qu'il suffisait de les bien dire pour tomber sur l'air écrit pour eux. Son école fut détrônée par l'école italienne, d'où est sortie l'école allemande, et elle a été chez nous la musique du passé avant de ne revenir germanisée sous le nom de musique de l'avenir. Encore une idée à restituer à la France, qui en a tant jeté au monde pendant le XVIIIe siècle. Quant à anéantir la musique dans la poésie et réciproquement, personne n'y avait pensé avant Wagner, et il aura quelque peine à persuader au monde que ce soit une nécessité ou même un progrès. On continuera à croire et à dire que les deux muses se sont assurément secourables l'une à l'autre, mais point indispensables, chacune d'elles se suffisant à elle-même et sachant fort bien se passer de sa sœur. Le vers n'a pas besoin d'être chanté, car il contient en lui-même sa propre musique. La symphonie, de toutes les formes musicales connues la plus élevée, prouve de son côté que la musique n'a que faire de paroles pour dire ce qu'elle a à dire. Chapitre 5e. Wagner ne s'est pas borné à avoir la conception d'un art nouveau et national. Il a voulu donner le modèle du drame musical selon les règles formulées dans ses livres. La nature l'avait doué exceptionnellement pour cette tâche. Il réunit les triples dons de musicien, de poète et de dramaturge, et ce rare assemblage lui permet d'obtenir l'unité parfaite qui est la condition essentielle du théâtre de l'avenir. Je ne dirais pas qu'il possède ses dons à des degrés égaux. Des trois artistes qui vivent en lui, le musicien a sur les deux autres une supériorité si décisive que le système wagnérien ne tient pas devant elle. La poésie, qui devait régner superbement sur la scène, courbe la tête, reléguée du rang de reine à celui de confidente et tombant plus bas encore à celui d'humble comparse dans les ensembles formidables qui sont un des triomphes du compositeur. Un des caractères de la musique de Wagner est précisément d'être disproportionné à la voix humaine. L'orchestre couvre perpétuellement les chanteurs, quelques cris qu'ils fassent. Le moyen de s'intéresser à des paroles qu'on ne distingue pas. Le gros du public, d'ailleurs, ne s'en soucie guère. Son éducation est à faire sur ce point, et pourvu qu'il comprenne les situations, il est content de perdre les vers. Les fanatiques de la religion wagnérienne l'entendent autrement. Nul détail, fût-il le plus mince et le plus matériel, n'est sans importance à leurs yeux, parce qu'ils trouvent à tout une signification figurée et symbolique. Il en est pour eux d'un opéra de Wagner comme de la Bible pour les Swedenborgiens, qui distinguent sous le sens naturel des mots de l'écriture un sens mystique dont ils sont seuls à posséder la clé. On ne pénètre au fond de la pensée du maître qu'après une préparation ardue où l'étude de la pièce est la moindre des choses, puisqu'il s'agit de posséder à fond la philosophie de Wagner, ses idées sur le pessimisme, sur le socialisme, sur le christianisme, sur la liberté humaine, que sais-je encore. Quand on ne sait pas tout cela, qu'on ignore que telle héroïne représente l'âme humaine, telle autre la conscience du divin, tel preux chevalier l'idéal, tel autre l'homme pur, on voit dans les pièces de Wagner des livrets d'opéra, rien de plus. Il y en a de bons, de beaux, de médiocres. Il s'y trouve de grandes situations. Le premier acte du Lohengrin est épique, de grands caractères, de grands sentiments, beaucoup de poésie, point de petitesse ni de vulgarité, mais des idées baroques ou naïves, des longueurs, des obscurités, des dissertations fort ennuyeuses. Le surnaturel y joue un grand rôle. Le sujet de presque toutes les pièces est emprunté aux légendes populaires ou à la vieille mythologie germanique, ce qui leur donne un air de féerie s'harmonisant fort bien avec leur mise en scène savante et luxueuse. Le goût de Wagner pour le merveilleux provient de ce qu'il y trouve des facilités pour mettre en scène des types abstraits exprimant des vérités psychologiques. Il n'y a rien là que de très naturel et de très légitime. Ce qui se conçoit moins aisément, c'est l'importance capitale qu'il attache à introduire la vérité matérielle dans le royaume du fantastique et l'admiration que ses efforts en ce sens inspirent à ses adeptes. J'ai entendu l'un d'eux mettre au rang des grands services rendus à l'art par Wagner l'ordre donné au chanteur de garder la position naturelle et de tourner le dos au public si la vraisemblance l'exigeait. La chose serait raisonnable dans un drame naturaliste, mais en pleine féerie. Dans le Lohengrin, le héros adresse un air à un cygne, dont les mines d'intelligence ne nous surprennent point, car nous avons étudié notre livret, sinon la philosophie de Wagner, et nous savons fort bien que ce cygne est un faux cygne et que ses plumes cachent un prince infortuné métamorphosé par une magicienne. Lohengrin chante tout cet air, qui est adorable, en tournant le dos à la salle parce que son cygne est au fond de la scène. Du moment qu'il a plu au poète de nous transporter dans les pays fabuleux où les hommes sont changés en oiseaux, il me semble que la vérité rigoureuse de l'attitude n'est pas indispensable et que la meilleure pose est celle où le chanteur se fait le mieux entendre. Si je relève ce détail, pris entre cent, c'est qu'il fait parfaitement comprendre Wagner. Il y a en lui deux tendances absolument contraires, l'une vers l'idéalisme, l'autre vers le réalisme. La première le poussant vers les subtilités au point de chercher à exprimer par sa musique l'inconscient des sentiments de l'âme. La seconde, le rendant exigeant et minutieux pour la machinerie, les décors et les costumes. Il prend son héros dans les mythes, et il faut que ce mythe se meuve dans un milieu vrai. L'opposition qu'on remarque ici est le fond même du caractère germanique, dont Wagner est un des types les plus purs. L'allemand est double. Une moitié de lui-même spécule dans les nuages et s'y perd même assez souvent. L'autre moitié, qui ne se perd jamais, va qu'aux choses de la terre avec une application, une constance et un sens pratique qui ne se démentent point. Chapitre 6e. Dès que le poète ne prenait pas carrément la première place au détriment du musicien, le type idéal du drame musical imaginé et décrit par Wagner n'était pas réalisé. Wagner, en effet, nous a rendu l'ancien opéra, réformé, débarrassé d'une foule de conventions et de formules musicales usées et fatigantes, mais conforme dans les traits principaux au modèle connu. Je dois dire cependant qu'il tend à s'en écarter de plus en plus, et que les œuvres de la troisième manière, Wagner a eu trois manières comme Beethoven, se rapprochent du type théorique. Dans ses œuvres mêmes, les adeptes distinguent certaines portions plus conformes que les autres à l'esprit du système. Les morceaux qu'il trie ainsi sur le volet ressemblent peu à la musique vocale ordinaire. Ce n'est pas de la mélopée, c'est encore moins ce qu'on est convenu d'appeler un air, c'est un intermédiaire, une sorte de compromis entre les deux méthodes. En Allemagne même, on n'a pas épargné les critiques à Wagner à propos de ce procédé. On lui a reproché de manquer de rythme et de mélodie, d'être aride, monotone, inchantable. Sa dernière œuvre, et la plus wagnerienne, Les Nibelungen, n'a pas été comprise, de l'aveu de ses admirateurs. Les accusations que l'on entasse sur sa tête ne sont pas toutes imméritées. Il porte la peine de n'avoir pas pris un parti franc, et d'être resté flottant entre le chant et la déclamation notée, qui peut être fort belle sans aucun doute, mais qui n'est pas du chant, ni même de la musique. Cette incertitude trouble l'auditeur, qui ne sait s'il entend une tragédie chantée ou un opéra récité, et le génie du compositeur ne peut empêcher qu'il n'y ait des moments d'ennui réels. Ces moments seraient beaucoup plus fréquents si le tempérament de musicien de Richard Wagner ne le soulevait sans cesse au-dessus de ses raisonnements pour l'emporter dans le monde divin de l'harmonie, d'où il verse sur ennemis et amis des torrents de mélodies profondément et largement empreintes du plus élevé des sentiments, le sentiment religieux. À propos du reproche qu'on répète le plus volontiers à l'adresse de Wagner, celui de ne pas être chantant, il y a une remarque à faire. Mon intention n'est pas de justifier le fameux système de la mélodie continue, pareil au murmure d'une forêt agitée par le vent, parce que cela ne m'offre aucun sens. L'invention me paraît aussi belle que le serait un livre composé d'une seule phrase, sans point ni virgule. Je veux seulement constater que si Wagner s'est montré avare de mélodie dans les parties vocales, c'est parce qu'il le voulait et non par impuissance. Ceux qui en doutent n'ont qu'à l'écouter son orchestre, où il a réfugié sans scrupule les splendeurs de son imagination. Quelle gerbe de mélodie, quel jaillissement incessant de motifs superbes ou délicats, tendres ou tragiques, douloureux ou aimables, qui vont en s'épanchant sur tous les instruments avec une profusion vraiment royale. Est-ce bien l'auteur de ce merveilleux orchestre qui a soutenu que la musique ne se suffisait pas à elle-même et qu'il lui fallait le secours d'un autre art? Et il aurait reçu cette révélation des symphonies de Beethoven. Oh, blasphème! Chapitre 7e. Les gens qui aiment qu'on conclue demanderont maintenant si l'idée que Wagner a conçue, mais qu'il n'a qu'à demi exécutée, est destinée à se développer et si la récitation musicale va détrôner le chant. Il faudrait avoir le don de prophétie pour répondre à la première question. Sur la seconde, on peut hardiment dire non. Le cœur humain est assez large pour contenir plusieurs amours, je ne parle que d'art, et il y a place dans le monde pour deux variétés d'opéra, l'ancienne et la future. On n'est pas obligé de renier les Huguenots ni le Barbier parce qu'on admire Tristan et Iseut. Les Allemands sont les premiers à nous donner l'exemple de l'éclectisme musical. La Dame Blanche et Il Trovatore alternent sur leurs affiches avec les œuvres des maîtres allemands. Les mêmes gens demanderont encore si Wagner sera accepté en France, et si on le jouera quand les picoteries personnelles seront oubliées. Cela est fort probable, puisque nous sommes devenus wagnériens sans nous en douter. La doctrine était dans l'air, nous l'avons subie, et tandis que nous repoussions le chef de l'école avec indignation, nous acceptions sa monnaie. La plupart de nos jeunes compositeurs se rattachent à Wagner. Ils ont habitué nos oreilles à ces procédés, et grâce à eux, ce qu'était lettre close il y a 20 ans pour la grande majorité du public français lui paraît aujourd'hui, sinon toujours de son goût, du moins intelligible. Si l'on jouait en ce moment un opéra de Wagner à Paris, bon nombre d'auditeurs, parmi ceux qui seraient arrivés le plus prévenus, le plus persuadés qu'ils allaient entendre un charivari incompréhensible, se posent la question qui m'a été faite il n'y a pas longtemps à l'opéra de Vienne. On jouait du Wagner. Mon voisin de Stahl était un mélomane parisien, grand ennemi de toute la musique allemande, qui avait entendu une seule fois, 20 ans auparavant, une pièce de Wagner, la même qu'on jouait ce soir-là, et qui avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus. Des circonstances qu'il maudissait de tout son cœur l'avaient fait manquer à son serment. Pendant le premier acte, il parut très préoccupé. Au milieu du second, il se tourna vers moi et m'adressa cette parole caractéristique « En quoi est-ce que cela diffère de la musique ordinaire ?» Ainsi s'achève Richard Wagner d'Arbet Barine.